accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Manifestation violente en Allemagne, montée en puissance des populistes, querelle sur l'accueil des bateaux de migrants. La question migratoire est plus que jamais en tête des priorités des gouvernements européens. Parmi les nombreux axes sur lesquels l'Europe se doit de réfléchir et d'agir, la question de l'aide au développement. Cet été, le président du Parlement européen s'est rendu avec toute une délégation d'entrepreneurs au Niger, un pays stratégique puisque c'est par là que transitent la plupart des migrants qui veulent rejoindre l'Europe. Objectif, favoriser les investissements et donc la croissance. Reportage sur place de Johanna Hochstein. Nous sommes ici à Niamey, capitale du Niger. C'est par là que transitent la plupart des migrants qui rêvent de rejoindre l'Europe. Des migrants bien moins nombreux à tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée. En 2016, ils étaient 330 000 au départ de la Libye. En 2018, moins de 10 000. Une réduction de plus de 90% ces deux dernières années, notamment en raison des efforts menés par le gouvernement nigérien avec le soutien de l'Europe pour mieux contrôler la frontière entre le Niger et la Libye. Mais pour le président du Parlement européen en visite sur place, il faut absolument une stratégie sur le long terme. Antonio Tajani.
2050, nous aurons 2,5 milliards d'Africains. On ne pourra pas bloquer avec la police ou avec l'armée l'immigration. Donc il faut avoir une stratégie pour le développement, pour la croissance, pour la stabilité, parce que seulement avec la croissance, on peut réduire l'immigration.
Améliorer les conditions de vie des Nigériens pour les dissuader de venir en Europe, c'est l'une des stratégies des Européens. Une initiative soutenue par l'Organisation internationale pour les migrations. Alberto Preato est l'un des représentants pour l'OIM au Niger.
Les migrants qui nous trouvons dans les déserts et dans les centres, les 90% entre eux, ils nous disent qu'ils ont quitté la maison pour des raisons économiques, pour chercher un boulot, pour améliorer leurs conditions de travail, pour améliorer les conditions économiques de leur famille. Donc, clairement, je pense si un jeune garçon au Sénégal, au Niger, au Mali trouve des opportunités de travail intéressantes pour lui, ça peut être, oui, une solution pour lui en lieu de prendre la route.
Le Parlement européen a donc organisé cette mission économique à Niamey. Une trentaine de chefs d'entreprise européens y participent, des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, du numérique et des énergies renouvelables, trois secteurs prioritaires pour le gouvernement nigérien. Stéphane Redon représente la société française Suna Design qui réalise des lampadaires à base d'énergie solaire. Cette entreprise est déjà installée au Niger mais elle cherche à augmenter ses parts de marché. Les difficultés sont nombreuses, la concurrence chinoise, l'insécurité, la mauvaise gouvernance. Mais la présence de Suna Design a une réelle valeur ajoutée pour la population locale. Selon Stéphane Redon, il est responsable à l'export.
D'abord la sécurité, donc qui permet effectivement à des gens de pouvoir penser à avoir une vie sociale nocturne, d'avoir une activité économique, donc créer de la richesse au niveau des villes à travers cette activité nocturne qui existe. Et on aspire à que ces projets, avec ces nouvelles technologies, créent aussi du travail localement, du travail au niveau de l'installation, du travail au niveau de la maintenance et du travail au niveau de la fabrication.
Créer des emplois, mais aussi transférer du savoir-faire de l'Europe vers l'Afrique. Voilà pourquoi des chercheurs européens participent également à cette mission économique. Belle idée sur le papier, mais dans les faits, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, selon ce chercheur nigérien. Il a bénéficié d'une formation aux États-Unis avant de rentrer au Niger et de diriger le Centre national des énergies renouvelables. Il a également été ministre nigérien de l'éducation. On parle de ce genre de concept depuis les années 1980, explique-t-il, mais avec peu de débouchés sur le continent africain pour le moment, Albert Michel Wright est donc plutôt perplexe.
J'ai assisté à plus de 90 réunions internationales, de laquelle sont sorties de multiples résolutions qui n'ont pas été mises en application sur le terrain. Malheureusement, ça n'a pas eu l'appui politique nécessaire pour concrétiser cela. Quand même, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait une école des mines, de l'industrie et de la géologie qui forme des mécaniciens, qui forme des métallurgistes et il n'y a rien de ces type d'activité implantée sur le sol d'Afrique. J'ai un fils qui est sorti docteur en génie matériaux, Pont-Chaussée, Paris. Il est revenu ici, il n'y a pas de travail. Il est reparti, il travaille aujourd'hui à Paris. Ce n'est pas normal.
Pour le Parlement européen, cette mission économique, c'est aussi et avant tout une opération de communication. Oui, il est possible de s'implanter au Niger. Oui, il y a des opportunités d'investissement. La preuve, une trentaine de chefs d'entreprise européens qui représentent au total un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros, soit 10 fois plus que le PIB du Niger, ont fait le déplacement à Niamey. Alors pourquoi pas vous, entrepreneurs européens ?
Chaque année, ils sont plusieurs centaines de milliers à tenter de fuir l'Afrique pour gagner l'Europe. Mais ils sont de moins en moins nombreux à y parvenir. L'une des raisons, l'Union européenne conclut des accords avec les États africains. Plus d'aide au développement contre un plus grand contrôle des flux migratoires.
À plus court terme, on le sait, l'Europe s'illustre surtout par sa volonté de contrer coûte que coûte l'arrivée des migrants sur son sol. Accord financier avec la Turquie, renforcement de l'organisme de contrôle de ses frontières extérieures, Frontex, mais aussi coopération sécuritaire avec les pays africains. Sur ce dernier point, l'UE n'évite pas un cynisme certain. Comme le dénonce le journaliste allemand Jan Schaeffer dans son documentaire « Les États africains portiers de l'Europe », un documentaire qu'a regardé Catherine Roland.
Fermer les routes de l'exil par tous les moyens, c'est ce que tente ainsi de démontrer Jan Schaeffer dans cette vaste enquête. L'Union européenne dépense en effet des milliards d'euros pour ne plus voir de migrants débarquer sur ses côtes. Le documentariste allemand s'est ainsi rendu dans une douzaine de pays, à Bruxelles bien sûr, où se concocte cette politique, à Varsovie, au siège de Frontex, la police européenne des frontières, à Abidjan, au dernier sommet Union européenne-Union africaine, et puis au Soudan ou au Niger. Et il explique comment cette politique marque des points malgré les fantasmes d'invasion toujours véhiculés sur le vieux continent. Le nombre de clandestins diminue, mais à quel prix ? Pour éviter les très nombreux checkpoints, les migrants empruntent des voies bien plus dangereuses, dans le désert du Sahara notamment, comme la très ancienne route commerçante du Niger. Un trafic dont les journalistes sont soigneusement tenus à l'écart. C'est ce que dénonce Ibrahim Manzo Diallo de Sahara FM, que le réalisateur a rencontré.
L'État du Niger n'autorise pas les journalistes étrangers à aller dans le désert. Pourquoi ? C'est parce qu'on cache quelque chose. Eh bien, je me dis que le Sahara, c'est un cimetière à ciel ouvert.
Un cimetière à ciel ouvert, donc, et Niamey ferme les yeux sur ce drame, déplore le réalisateur. Et dans le même temps, le Niger sanctionne plus durement les passeurs des routes plus sûres. Il reçoit en échange 1 million d'euros de l'Union européenne, une politique clairement annoncée en 2016 déjà par Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, archive à découvrir dans ce documentaire.
Ce cadre repense la façon dont les États membres, les institutions de l'Union européenne et les pays tiers travaillent ensemble pour mieux gérer les flux migratoires. Nous proposons des mesures incitatives et dissuasives pour récompenser les pays tiers qui acceptent de coopérer et pour que les autres assument les conséquences. Nos politiques de développement et d'échanges commerciaux peuvent servir de moyens de pression.
Cette politique est dénoncée par les ONG et les défenseurs des droits de l'homme, car si la Commission dit vouloir se rapprocher du Niger, du Mali, du Sénégal ou encore de l'Éthiopie, ce qu'elle dit moins, rappelle le réalisateur, c'est qu'elle finance aussi des gouvernements peu fréquentables, comme celui du Soudan, son président Omar el-Béchir est accusé par la justice internationale de génocide, et puis surtout de l'Érythrée, une des pires dictatures du globe. Jan Schaeffer a pu obtenir des témoignages édifiants de militaires soudanais chargés de refouler les migrants ou d'Érythréens torturés par les services secrets d'Asmara qui les interceptent partout sur le continent africain et cela avec l'accord tacite de l'Union européenne. Pour l'universitaire néerlandaise Myriam van Rijzen, auteure d'un rapport sur les passeurs érythréens, les Européens se sont débarrassés bien vite de certains principes. On l'entend longuement dans le documentaire.
Ce qui est très curieux dans la politique européenne, c'est que pendant des décennies, Bruxelles a conditionné l'octroi des aides au développement au respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Et aujourd'hui, alors que de nombreux Africains se disent qu'il est très important de se doter d'une société civile, l'Union européenne met soudain tout cela de côté pour conclure des accords extrêmement cyniques, motivés uniquement par son propre intérêt.
purely out of self-interest.
Et lors du sommet Union européenne-Union africaine à Abidjan en novembre dernier, de nombreux responsables africains ont dénoncé eux aussi les conséquences de la politique migratoire décidée à Bruxelles. Yann Schaeffer était présent sur place. Il a rencontré Olawale Mayegun, directeur des affaires sociales de l'Union africaine.
The focus of European migration policy.
L'Europe n'a qu'une priorité en matière de migration, fermer ses frontières. Et elle met un tel zèle à poursuivre cette politique que parfois elle fait fi de toute prudence. Je ne veux pas dire que c'est un choix délibéré, mais s'arc-bouter sur le principe d'une fermeture des frontières à tout prix peut être lourd de conséquences. Franchir une frontière n'est pas un crime, quoi qu'on en dise. On a tous migré à un moment de notre histoire. Notre objectif est de voir une meilleure gestion des migrations légales, sans danger et bien coordonnées. Il faut voir les bienfaits de ces migrations, continuer de les envisager comme quelque chose de positif et non pas de négatif. Et peut-être cesser d'alimenter les discours d'extrême droite, point final, d'un côté comme de l'autre.
Pourtant, l'Europe continue d'envoyer sur le continent policiers et militaires européens pour aider à briser les routes migratoires. Une politique qui profite aux entreprises d'armement et de sécurité, constate le réalisateur allemand. Et il souligne que ce sont elles les grandes gagnantes. Les ventes de drones et de logiciels de reconnaissance faciale ont augmenté de 7% par an.
Il y aura donc un référendum pour valider le nouveau nom de Macédoine du Nord. C'est ainsi qu'il faudra sans doute bientôt appeler la petite république d'ex-Yougoslavie qui avait le tort de partager le même nom que la province grecque voisine de Macédoine. Après 27 ans de querelles diplomatiques qui ont empoisonné les relations entre les deux pays, l'accord historique signé le 17 juin dernier doit donc recevoir l'approbation des citoyens, mais rien n'est moins sûr, les opinions sont contrastées à Skopje dans le reste du pays et l'opposition nationaliste bien déterminée à contester ce nouveau nom que devra prendre le pays. Reportage sur place de Laurent Gélin.
Macédoine du Nord, un compromis en forme de nom propre à rallonge, un nouveau baptême pour le pays dont Skopje est la capitale, dénoncé par l'opposition nationaliste qui accuse le premier ministre Zoran Zaev d'avoir trahi l'intérêt du peuple macédonien. Biljana Proeska est enseignante dans la ville de Kruševo, dans l'ouest du pays. Pour elle, même en remontant loin dans l'histoire, impossible de trouver un accord aussi mauvais.
Notre État a été formé en 1944 sous le nom de République de Macédoine. Et jusqu'à aujourd'hui, son nom est Macédoine.
En
1913, au terme des deux guerres balkaniques, la Macédoine historique, autrefois sous le contrôle de l'Empire ottoman et partagée entre la Serbie, la Grèce et la Bulgarie, la partie située en Serbie, aussi appelée Macédoine du Vardar, est intégrée à l'issue de la Première Guerre mondiale au royaume des Serbes, Croates et Slovènes, puis devient après la Seconde Guerre mondiale une république fédérée de la Yougoslavie socialiste. Celle-ci accède finalement à l'indépendance en 1991. Aujourd'hui, la nouvelle appellation de Macédoine du Nord doit être validée par un référendum qui permettra de changer la constitution. Mais ce scrutin est encore loin d'être gagné.
Un homme peut vendre sa maison, peut vendre son champ, peut vendre sa voiture, mais pas le nom de son pays. Le référendum sera l'occasion pour le peuple macédonien de se prononcer, mais je pense que personne ne peut accepter qu'on lui dise « voici ton nouveau nom ».
Aujourd'hui, le Premier ministre Zoran Zaev est au plus bas dans les sondages. Pour remporter la partie, il lui faudra mobiliser l'ensemble de ses partisans et compter sur le soutien de la minorité albanaise qui représente environ 25% des 2 millions d'habitants du pays et qui pourrait en échange exiger plus de droits politiques et culturels. Yelena a grandi en France avant de revenir dans le pays de ses parents. Elle ira voter en faveur du nouveau nom pour espérer un jour intégrer l'Union européenne.
Personne ne m'ôtera mon identité, quelle qu'elle soit. Depuis l'indépendance, on a un pays qui s'appelait Arim en français. Est-ce que pour autant, ça a tué mon identité ou celle des nouvelles générations de Macédoniens ? Non, dans ma famille, c'est sur des générations que les gens se sont toujours dénommés macédoniens, alors qu'ils ont été sous l'Empire ottoman, qu'ils ont été sous les Serbes, ils ont été sous les Bulgares pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde se dit toujours macédonien dans ma famille. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui change d'un point de vue, je dirais presque technique, que ça changera profondément ce que je suis.
Pour beaucoup, les souvenirs des violences du passé sont pourtant difficiles à refermer. Sous l'Empire ottoman, la Macédoine était une mosaïque si complexe de peuples et de religions que l'on donna ce nom à une salade de légumes. Dans les villes de la région, on parlait le turc, l'albanais, l'aroumain, le grec et différents dialectes slaves. Mais les guerres du XXe siècle et les nettoyages ethniques croisés ont drastiquement simplifié cette marqueterie communautaire. Le vieux Lazar Kosovski habite Skopje, mais il a grandi dans un village situé dans le nord de la Grèce. Sa famille a dû fuir à la fin de la guerre civile qui a ensanglanté ce pays entre 1946 et 1949. Autant dire qu'après avoir vécu avec des papiers grecs, yougoslaves, puis macédoniens, peu lui importe d'habiter bientôt dans un pays nommé Macédoine du Nord.
Nous, les partisans communistes, on se battait unis, macédoniens et grecs, contre l'armée royale. Je vais vous dire, les partisans recevaient beaucoup d'aide de l'armée yougoslave de Tito. En 1948, quand on a perdu, j'avais 14 ans. Tous les enfants du village ont dû partir en Yougoslavie.
La référence géographique à la Macédoine du Nord parviendra-t-elle à rallier tous les suffrages et à dissiper toutes les craintes dans ces Balkans où les identités ont si souvent été balayées par les grands vents de l'histoire ? Rien n'est moins sûr. Si le référendum échoue en Macédoine ou si le fragile gouvernement d'Alexis Tsipras est renversé dans les prochains mois en Grèce, l'accord sur le nom devrait rapidement voler en éclats.
Et en marge de cet accord, les autorités grecques ont dénoncé l'ingérence de Moscou. Deux diplomates russes ont été expulsés, deux autres interdits de séjour. Selon les accusations étayées par des enquêtes journalistiques, le gouvernement russe aurait tenté d'empêcher un accord qui ouvre les portes de l'OTAN et de l'Union européenne à ce nouveau pays, la Macédoine du Nord. À Athènes, Charlotte Stivenard.
Tout a commencé lorsque quatre diplomates russes ont été accusés d'avoir tenté de faire circuler des informations et soudoyer des fonctionnaires grecs avec pour objectif de rendre tout accord sur le nouveau nom de la Macédoine impossible. Un homme d'affaires gréco-russe, Ivan Savidis, a lui aussi été mis en cause par un groupe de journalistes est-européens regroupés sous le nom de Organized Crime and Corruption Reporting Project. Il lui reproche d'avoir financé des groupes d'opposition à l'accord à Skopje. Ils avaient violemment manifesté fin juin après la signature. Dans une interview, le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Kotsias, a déclaré que la Russie doit comprendre qu'elle ne peut pas se montrer irrespectueuse des intérêts nationaux d'un autre État pour la seule raison qu'elle se sent en position de puissance par rapport à lui. Mais pourquoi la Russie serait-elle opposée à un accord sur le nouveau nom de la Macédoine ? Selon Alexandra Prodromidou, chercheuse spécialiste des relations gréco-russes, la Russie craindrait ainsi un rapprochement avec les États-Unis et l'Union européenne et la perte donc d'une partie de sa sphère d'influence traditionnelle dans les Balkans. Depuis 27 ans, la Grèce bloquait en effet l'entrée de ce petit pays des Balkans dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, car une région grecque porte le même nom et qu'elle craignait des visées irrédentistes de ce pays. En signant l'accord, la Grèce a fait le choix du rapprochement avec les États-Unis et a pris le risque d'un refroidissement de ses relations avec la Russie. Moscou a d'ailleurs annoncé qu'elle expulserait elle aussi deux diplomates grecs.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. On se dit à demain.